Bunker Tor à tout le monde. Alors, vous pouvez voir mon décor fantastique derrière moi. Ce sont les robes de ma fille, bien sûr. En arrière-plan, faut lui acheter une armoire. Mais bon, ça a priori rien à voir avec notre étude. Bunker Tor, on est passé dans la deuxième moitié du décompte de l'Homère, puisque on est Shisha ve'esrim yom la Homère. Et Shisha ve'esrim yom la Homer, Shem, Shlosha, pas de son. Comment ça, pas de son? Moi, j'ai du son. On m'entend très bien. Bekitzur, donc, Shisha yom la Homer, donc 3 semaines et 5 jours du Homer. Donc, on est passé déjà dans la deuxième moitié de Sfirat HaOmer. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu de cette histoire-là. Et qu'on se pose une question. Quel est le point de référence de cette histoire de Sfirat HaOmer? Je m'explique. Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est le lendemain de Pessah, ou ce qui est important pour nous, c'est Shavuot? Eh oui, parce qu'on a l'habitude de penser que Sfirat HaOmer, le décompte du Homer, c'est pour arriver à Shavuot. Et c'est tout à fait raisonnable de le penser, puisque finalement on te dit qu'il faut compter Chamishim Yom, et finalement on arrive à Shavuot. Mais le problème, c'est que si le point de référence était Shavuot, alors on devrait compter le premier jour 49, ensuite 48, ensuite 47, ensuite et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on devrait faire un compte à rebours pour arriver à Shavuot. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nulle part, on nous parle d'arriver à Shavuot. On nous dit qu'il faut compter Shev à Shavuot. Mais on ne nous dit pas pour arriver à quoi. Quand on regarde le verset de la Torah, alors je vous amène le verset de la Torah, juste pour rappel, on le connaît, puisqu'on le chante le soir, dès qu'on va, juste avant de compter. Alors, je ne sais pas si c'est Sfaradim, on chante, mais on nous dit Usfartem lachem mimachorat à Shabbat. Miyom eviachem et omer atenufa, sheva shabbatot temimot tiyena. Ad mimachorat à Shabbat à Shevi'i, tisperu chamishim yom, veikravtem mincha chadasha lachem. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas pourquoi, à part le fait qu'on va amener une mincha chadasha, est-ce que c'est uniquement pour ça qu'on fait le décompte du Homer? D'après la façon dont on compte le Homer, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il semblerait que le point de référence, le point de départ, soit le lendemain de Pessah, sans aucun rapport avec Shavuot. En d'autres termes, il semblerait que le point de référence, c'est le Korban à Homer et non pas Mincha Chadasha. Je rappellerai ici donc que nous avons deux Korbanot. Nous avons le Korban qui ouvre le décompte du Homer et un Korban qui le ferme. Alors le Korban qui l'ouvre, c'est Korban à Homer. Et le Korban qui le ferme, c'est à Shavuot lorsqu'on va amener du pain Chametz en tant que Korban au Beth Amikdash, par opposition à la Matzah qu'on amenait à Pessah et qu'on amenait de manière générale dans les Korbanot. Mais donc la question, elle est la suivante. Ce qui est important, c'est le point de départ. Donc, qu'est-ce qu'on est en train effectivement de dire quand on fait Sfirat à Homer? Si on regarde la mitzvah qui est mentionnée dans le Sefer HaChinuch, le Sefer HaChinuch fait le décompte de toutes les mitzvot, eh bien, dans notre paracha, parce que ce cours pourrait être également assimilé à un cours de parachat à Shavua, bien évidemment, puisque c'est dans la paracha qu'on voit les versets de Sfirat HaOmer, eh bien, quand on regarde la mitzvah telle qu'elle est présentée dans le Sefer HaChinuch, eh bien, il dit le Chinuch, « Mishorshe ha-mitzvah al tzad ha-pshat, lefi she'kol ikaran shel Israël eino ela ha-Torah. » C'est-à-dire que l'objectif, c'est la Torah. Or, eh bien, ce décompte va nous permettre d'arriver à la Torah. Sauf que le Sefer HaChinuch ne fait que renforcer notre questionnement, puisque donc il est en train de dire que l'idéal, le point de référence, c'est la finalité. Or, on a dit que c'est pas le cas. Donc, comment comprendre ce Sefer Achinour? Une chose est sûre. On n'a pas encore déterminé si l'important, c'était le point de départ ou le point d'arrivée. Mais il paraît évident qu'il y a donc une importance capitale à ce qui se passe entre les deux. Ah bah oui. D'ailleurs, pour que les choses soient bien claires, le moment où on commence à couper le homer, eh bien, c'est le point de départ. Shavuot n'est pas dans le compte du homer. Shavuot, c'est le 50e jour. Nous, on compte que 49. Donc, il semblerait que, véritablement, ce qui est fondamental, c'est cette période entre les deux. Toute cette période qui s'appelle Sfirat HaOmer. À tel point que le Ramban dira, dans son commentaire de la paracha, que cette période-là, entre Pessah et Shavuot, eh bien, c'est une période de joie très profonde. Pourquoi de joie? Eh bien, tout simplement parce que, de la même façon que quand il y a une fête, eh bien, entre le premier jour qui est Yom Tov et le dernier jour qui est Yom Tov, il y a Chol HaMoed entre les dieux, eh bien, là, pareil, Shavuot étant le dernier jour de Pessah, officiellement, eh bien, ce qui se passe entre Pessah et Shavuot sera donc un grand Chol HaMoed. En d'autres termes, la période entre Pessah et Shavuot est une période de joie. Alors, je ne rentre pas dans ce cours-là, peut-être qu'on en fera un autre la semaine prochaine, on verra, mais je ne rentre pas sur la question de la veloute et des élèves de Rabbi Akiva et le corona de l'époque. Tout ça, je n'en parle pas. Je dirais juste la chose suivante. C'est une période de simcha. Et ce qu'on va essayer de mettre en surbrillance ce matin, c'est de savoir quelle est cette grande simcha. Ok ? Alors, les présentations sont faites. Venez, on rentre dans le vif du sujet. Comment ça marche, Sfirat HaOmer ? C'est quand qu'on fait Sfirat HaOmer ? C'est quand ? Quand est-ce qu'on commence ? Eh bien, vous le savez, on commence le lendemain de Pessah. Sauf que ce n'est pas ce qu'il y a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué « Mimachorat à Shabbat ». Pas « Mimachorat à Pessah ». Il y a marqué « Mimachorat à Shabbat ». Ah ! Oui, non, mais moi, je sais, la Torah chez Béalpé, elle m'a expliqué qu'en fait, Shabbat, c'était un terme générique qui était donné à toutes les fêtes. Et donc, en fait, ici, il s'agit de « Mimachorat Yom Tov Rishon Shel Pessah », le lendemain du premier jour de Yom Tov de Pessah. Je veux bien, c'est ce que la Torah chez Béalpé m'a expliqué. Mais vous le savez, il y a de cela 2000 ans, il y a une caste dans le peuple juif qui va rejeter la Torah chez Béalpé. Ils s'appellent les Tzdoukim, Baitoussim. Et donc, eux rejettent la Torah chez Béalpé et disent « Mais c'est faux !» Il y a marqué dans la Torah « Mimachorat à Shabbat », c'est le lendemain de Shabbat. De quel Shabbat? Alors oui, le lendemain du Shabbat après Pessah. Puisque dans la Torah, ces versets de « Usfartem lachem mimachorat à Shabbat » arrivent après les versets qui nous parlent de Pessah. Donc, eh ben, nos amis Tzdoukim vont dire « C'est à partir de quand qu'on fait le décompte du Homer ?» Eh bien, à partir de lendemain de Shabbat après Pessah. Fastoche ! Il y a eu à ce moment-là une guerre mondiale entre les Prouchim, les rabbins, nous et les Tzdoukim. Pour savoir est-ce que c'était Mimachorat à Shabbat ou Mimachorat à Pessah. Et ça a été véritablement une guerre mondiale. À tel point que le livre Megillat Ta'anit, alors ceux qui ne savent pas ce qu'est le livre Megillat Ta'anit c'est un livre très important. C'est un livre très important que vous pouvez trouver il peut être vendu en tant que livre Megillat Ta'anit, mais si vous voulez le trouver également, vous pouvez le trouver dans la Gemara Shtenzals, entre le traité de Megillah et le traité de Ta'anit, eh bien, a été imprimé Megillat Ta'anit. Ce n'est pas une Gemara. C'est en fait un écrit qui est contemporain de la Mishnah, qui vient nous faire la liste des différentes fêtes qui avaient lieu à l'époque du Deuxième Temple et qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Hormis Hanouka et Purim, qui sont mentionnés dans Megillat Ta'anit, eh bien, toutes les autres fêtes ont disparu aujourd'hui. Mais attention, pour les Chachamim, c'était un livre d'une importance capitale, à tel point que lorsqu'il est cité dans le Talmud, car Megillat Ta'anit est cité dans la Gemara plusieurs fois, eh bien, quand on cite Megillat Ta'anit, il y a marqué « Dirtiv ». Et « Dirtiv », c'est un terme qu'on utilise quand on va citer un verset de la Torah. Donc, c'est-à-dire que les Chachamim donnaient une importance capitale à ce texte-là, qui fait la liste donc des fêtes. Il y a à peu près une trentaine de fêtes, de jours de fêtes, en plus que ce que nous, on connaît aujourd'hui. Et donc, dans ce Megillat Ta'anit, au mois de Nissan, eh bien, on nous dit qu'il y avait une fête du 8 Nissan jusqu'à Pessah. Une autre fête de 7 jours, du 8 au 15, qui est symbolisée quoi ? La victoire des Pourushim sur les Tzdoukim, à propos de la question de est-ce que ben, le Homer, c'est le lendemain de Pessah ou le lendemain de Shabbat après Pessah. En fait, ce n'était pas tellement ça le Inyan. Le Inyan de la fête, c'est qu'enfin, on a décrété à quelle date tombait Shavuot. Ben oui, parce qu'en fait, si tu me dis que Shavuot, c'est à la fin du décompte, mais que le décompte, il se passe le Shabbat après Pessah, eh bien, ça veut dire que tout simplement que Shavuot n'a pas de date fixe. Puisque le Shabbat après Pessah peut être le 16 Nissan, le 17 Nissan, le 18 Nissan, le 19 Nissan, le 20 Nissan. Donc, ça veut dire que la date de la fin du décompte va varier en fonction de quand est tombé le Shabbat. Alors que si tu me dis, je vais juste fermer la fenêtre. Voilà. Si tu me dis que c'est le lendemain de Pessah, à ce moment-là, la date est fixe. Ce qui va bouger, c'est le jour dans la semaine où tombera Shavuot. Mais la date en elle-même est fixe. Et le fait que, finalement, les Prouchim ont gagné, eh bien, a fait une grande, grande fête. Sauf que, ben moi, je pose cette question et je me dis, bah, ok, en quoi c'est tellement un problème de ne pas savoir quelle va être la date de Shavuot ? Quoi, c'est pour préparer le gâteau au fromage en avance ? Kilo Makara ? Alors, tu ne connais pas la date de Shavuot, eh ben, tu comptes et tout ira bien. Je veux dire, en quoi c'est tellement important de savoir que c'est Mimachorat à Pessah et pas Mimachorat à Shabbat ? En quoi est-ce si important ? Eh bien, les amis, il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça marche. Comment ça marche, Ktsirat HaOmer ? Puisque avant de compter le Homer, eh bien, il faut couper le Homer. Et oui, le cours, c'est décompte du Homer ou coupage du Homer. Est-ce que ce qui est important, c'est de compter jusqu'à Shavuot, jusqu'à Hamishim Yom ? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de couper le Homer. Parce que comment ça marche ? Homer, c'est une mesure d'orge, évidemment. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en coupant dans mon champ la mesure d'orge, je vais l'amener le lendemain au Beth Amikdash, et c'est ça qui va me permettre d'utiliser la nouvelle récolte de cette année. Comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, le lendemain de Pessah, donc c'est-à-dire Motsaé Yom Tov, le soir après le premier jour de Yom Tov, eh bien, le peuple juif tout entier, enfin le peuple juif tout entier, tous ceux qui étaient à Jérusalem, c'est quand même pas mal parce que c'était une des trois fêtes de pèlerinage, donc il y avait plein de monde à Jérusalem, tout le monde allait dans les champs avoisinants, il y avait un Cohen qui était le préposé pour cela. T'imagines la scène, t'as le Cohen en plein milieu du champ, t'as Am Israël qui est devant, des milliers de personnes. Et là, il y a une espèce de cérémonial qui se met en place. Où le Cohen, il dit à tout le monde, il dit « C'est bon, il fait nuit !» Et là, le peuple répond « Il fait nuit !» Et après, il prend la faucille et il dit « Avec cette faucille !» Et là, le peuple, il dit « Ouais, avec cette faucille !» Et toute une série de pour chauffer le peuple. C'est marqué comme ça dans « Ilchot Midim ou Moussafim » chapitre 7, à la Halakha 8, dans le Rambam. Seulement, là, le Rambam rajoute quelque chose. Il marque « Ve'im aya Shabbat ». Comment ça, « Im aya Shabbat » ? Ben oui, « Im aya Shabbat ». Si on dit que « Tzirat HaOmer », ça commence… Quoi, couper le Homer si on ne parle pas ? J'ai pas... Qu'est-ce que t'... Remettez-moi la question, s'il vous plaît.
Ça veut dire quoi, couper le Homer si on parle de la mitzvah de l'orge ?
Ah non, mais Homer, ça veut pas dire... c'est pas un Simpson, hein. Homer, c'est une mesure. Une mesure, tout simplement. C'est-à-dire que combien tu vas amener d'orge au Beth Amikdash, ben, tu vas pas en amener une caravane. Il y a une mesure d'orge. OK ? Donc c'est ça qui s'appelle Homer. Homer, c'est une mesure. On devrait dire, si tu veux, Homer, c'est Orim. En vrai, on devrait dire une mesure d'orge. Mais on s'est contenté de dire mesure. C'est bon. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'on parle du Homer que c'est pas en rapport avec l'orge. Non, le Homer, c'est le Homer de l'orge. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, si on dit que ça commence après Shabbat, eh bien, ça veut dire que tous les ans, cette cérémoniale où on va couper la mesure d'orge, eh bien, ça sera dimanche, c'est-à-dire samedi soir, dimanche. Yom Rishon, Motsai Shabbat. Mais si tu me dis que c'est Mimachorat à Pessah, eh bien, le premier jour de Pessah peut tomber n'importe quel jour dans la semaine. Surtout à une époque où on n'avait pas encore de calendrier avec les stratagèmes pour que certaines dates ne tombent pas certains jours. Je vous rappelle qu'à l'époque, on décide du Rosh Chodesh en fonction de la nouvelle lune, et donc bah, ça peut tomber n'importe quel jour. Résultat des courses, eh bien, si le premier jour de Yom Tov tombe un vendredi, eh bien, Motsei Yom Tov Rishon, ça sera Shabbat. Et donc, nous dit le Rambam, si jamais ça tombe donc Shabbat, le lendemain du premier jour de Yom Tov, mais si, on parle de l'offrande du Beth Amikdash, bien sûr. Bien sûr qu'on parle de l'offrande du Beth Amikdash. Cette mesure d'orge qu'on va couper le lendemain, c'est-à-dire le soir, le lendemain matin, on va l'amener au Beth Amikdash, bien évidemment. Si, si, bien sûr qu'on va l'amener au Beth Amikdash. La question que je pose, c'est est-ce que cette mesure d'orge qu'on va amener au Beth Amikdash, eh bien, est-ce que c'est elle le point de référence, ou est-ce que le point de référence, c'est l'autre corban qu'on va amener à la fin du décompte ? D'accord ? Pour nous, eh bien, on va voir. Quel est le rapport pour nous ? Quelle est l'influence pour nous maintenant que nous, on n'amène plus la mesure d'orge ? On va voir. C'est-à-dire, c'est le but du cours. Quoi qu'il en soit, Rabotai, de quoi parlons-nous ? Si jamais ça tombe Motsei Shabbat, donc on a dit ça sera toujours Motsei Shabbat, mais si ça tombe, si on compte après Pessah, eh bien ça peut tomber n'importe quel jour. Et donc, eh bien ça peut tomber Shabbat. Pas Motsei, mais Shabbat. Et donc le Rambam nous dit, si c'était Shabbat, je vous rappelle, Stam Kacha Alacha Pshuta, même si je ne suis pas forcément le Mara Deatra, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de marloquette. Stam Kacha Shabbat, tu n'as pas le droit d'aller dans ton champ pour récolter. C'est assour. C'est kotser, c'est pas tellement permis pendant Shabbat. Bon, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, si c'était Shabbat, le premier jour du Homer, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le même cérémonial. Et le Rambam nous dit que le Kohen, dans son tekes, là, où il disait « faucille avec cette faucille-là », il disait « Shabbat Ayam ». Genre, « C'est Shabbat, ouais, ouais ». Et tout le peuple répondit « Ouais, c'est Shabbat, vas-y, coupe !» Et là, le Kohen, il coupe. C'est Chiloul Shabbat. C'est Chiloul Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, vous allez me dire, non, mais un korban, c'est pas pareil. On sait bien qu'on a le droit de faire les korbanot à Shabbat. Et je te dis, mais oui, au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème de faire les korbanot pendant Shabbat. Mais préparer michoutz la Mikdash, le korban, c'est pas du tout permis. Normalement. Eh non. On ne fera pas la shrita du korban moussaf, ou korban tamid shel shachar de Shabbat. Vous savez, au Beth Amikdash, on faisait un korban le matin, Shabbat aussi. Mais sauf que ce korban-là, on l'a pas préparé, on l'a pas shrité la veille, vendredi soir au tish. Pas du tout. On n'a pas le droit de faire un truc comme ça. Et là, on me dit, qu'on coupait la mesure d'orge, Shabbat. C'est ça qui posait un grand problème au Bait Ussim, au Tzdoukim. Ils te disent, non, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Shabbat, c'est Shabbat. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on faisait cela? Eh bien, Rabotai, venez, on essaie de comprendre véritablement de quoi il s'agit. Cette Ktsirat à Omer, ce coupage du Omer, eh bien, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, je reviens là-dessus, c'est ce qui me permet d'utiliser la nouvelle récolte. On a une halakha dans une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Issour Hadash. Alors, c'est quoi Issour Hadash? C'est que je n'ai pas le droit d'utiliser la nouvelle récolte tant que n'a pas été apporté le korban à Omer au Beth Amikdash. C'est-à-dire que j'ai récolté la moisson, machin, disons, je sais pas moi, j'ai commencé début avril, mais Pessah, c'était le 20 avril. Ok, moi, j'ai commencé à récolter mon blé, mon orge, mes céréales le 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. Eh bien, je n'ai pas le droit d'utiliser ma récolte tant que n'est pas arrivé le premier jour de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah. Bon, si j'ai 2 semaines à attendre, ce n'est pas très grave. Mais il y a certains endroits où des fois, il faut attendre un mois et demi, 2 mois entre la récolte et Pessah. Et c'est un grand problème. Donc, on ne mangera que ce qui était des restes de l'année dernière. En d'autres termes, Korban à Omer, il s'agit tout simplement de l'ouverture, pour moi l'homme, de la nouvelle saison agricole. D'accord ? Maintenant, en quoi c'est important ? Les Rabotai, je vous rappelle que la Torah est donnée à une époque où 99% de la population est agriculteur. C'est-à-dire que pour eux, Ktsirat HaOmer, quand je dis que c'est l'ouverture de la saison agricole, venez, on va faire un parallèle avec quelque chose qu'on connaît en ce moment. En fait, le Ktsirat HaOmer, c'est un peu comme lorsque l'État dit qu'on a le droit de réouvrir les magasins après le corona. Genre pendant, je ne sais pas combien de temps, les magasins, ils sont fermés. L'État, elle dit d'abord, et là, tout d'un coup, on ouvre. Quelle différence avec les premiers fruits? Il y a énormément de différences. La première, c'est que là-bas, c'est des fruits et que là, c'est du blé, enfin de l'orge, des céréales. Deuxième différence, c'est que les prémices, il faut les emmener au Beth Amikdash à Shavuot, et là, il faut, enfin après Shavuot, et là, il ne faut pas les emmener à Shavuot. Il y a plein de différences. Donc en fait, la question, je vais y répondre autrement, c'est pas quelle différence y a-t-il entre les deux. Y a-t-il un rapport entre les deux? Et je dis oui, de manière générale. Mais concrètement, ça vient rappeler 2 choses différentes. La mitzvah d'Abikourim, elle vient rappeler que tu es en contact avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. C'est à ça qu'elle vient rappeler, c'est à ça qu'elle sert la mitzvah. La mitzvah d'Omer, ça vient rappeler autre chose. Et c'est ce qu'on va, là maintenant, qu'on va dévoiler. Ouvrir la saison agricole, c'est, j'ai dit, comme permettre aujourd'hui aux magasins de s'ouvrir. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'ouverture de la nouvelle saison de la Parnassa du monde entier. Pour le peuple juif, évidemment. C'est l'ouverture de Chaim Baolam Hazé. Tous les ans, on réouvre à Chaim Baolam Hazé. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Le Rav Kook va écrire un texte dans le livre Ma'amrei Re'iya. Le texte s'appelle Yom Abikurim Zman Matan Toratenu. Le Rav Kook écrit la chose suivante. Il dit... Vezot yadua kol ki a Shabbat Kodesh ou l'Israël. Tout le monde sait que le Shabbat c'est Kodesh. Il n'y a pas de débat. Et qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. Bien sûr, tout le monde le sait. On sait également que, il y a une exception pour ce qui se passe dans le Beth Amikdash, où pendant Shabbat, eh bien, on travaille également. Bon, mais ça tout le monde sait que c'est parce que c'est une kdusha particulière du Beth Amikdash. Mais qui aurait pu penser que l'agriculture, c'est-à-dire en français, le travail dans ce monde-ci, était lié avec un lien de Kedusha avec le service divin du Beth Amikdash. On savait tous, dit le Rav Kook, qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, et on n'a pas le droit de récolter, on n'a pas le droit de travailler dans les champs. Et donc, comment est-ce possible que ce premier korban de l'année agricole puisse être doré Shabbat? Et le Rav Kook répond. Le secret était le suivant. Toi et moi, monsieur tout le monde, qui va dans son champ et qui récolte, c'est interdit pendant Shabbat. Mais la première récolte qui sert de témoin au peuple juif, ce n'est pas un korban yachid, c'est un korban tzibour, qui donc permet de transgresser Shabbat, comme les korbanot au Beth Amikdash. Et ça commence par le moment où ça coupe. Pourquoi ? Pour que le monde entier, pour que le peuple juif soit totalement conscient qu'à son origine, dans son essence, la chaklaout, c'est-à-dire pour l'époque, le fait de travailler dans ce monde, oui, chaklaout, ça peut être high-tech aujourd'hui, c'est l'homme échané, mais que le travail de Eretz Israël, yesodo bakodesh penima, que à l'origine, le fait de construire ce monde, c'est Kodesh Kodashim Be'eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il est Doré Shabbat. Les Baïtoussim, ils ne voulaient pas qu'il soit Doré Shabbat parce qu'ils pensaient que la Avodat Haolam Hazeh, c'est Stam parce qu'on a besoin de Parnassa. Mais ils n'y voyaient pas une Kdusha particulière. Comme on peut trouver, malheureusement, dans beaucoup de milieux juifs aujourd'hui, qui, alors, je ne parle pas des milieux juifs qui disent qu'il ne faut pas les travailler. Ça, Bichlal, on n'en parle même pas. Mais dans ces milieux juifs qui vont travailler, mais qui disent, le travail, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'après-midi où je vais étudier au Kollel. On connaît ça, des gens qui vont moitié au travail, moitié au Kollel. C'est très bien. Mais là où c'est pas bien, c'est lorsqu'ils te disent, le travail, c'est uniquement pour amener à manger à la famille, mais le Kollel, c'est ça qui est important. Non. Le travail est tout autant important que le Kollel, parce que le Kollel te permet l'étude de la Torah, va te permettre de comprendre Eze Avodat Kodesh tu fais quand tu vas travailler. Parce que tu es en train de construire le monde. Parce que tu es en train de mettre en pratique ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire Baolam. C'est-à-dire de le construire. Kivo Shavat Mikol Melarto Asher Bara Elohim La Asot. Ktirata Omer. Le fait de couper, c'est le point de départ. C'est le point de départ, la référence qui va nous servir pendant tout le décompte. Parce qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, depuis le moment où on a coupé. C'est-à-dire depuis le moment où on s'est rendu compte que la avod baolam hazeh, c'est kodesh. Il y a une question qui est posée par le Bala Akedat Yitzhak, qui me pose une question. Et dit, comment ça se fait d'habitude quand on refait une mitzvah qui revient périodiquement chaque année, on doit faire la bracha de She'echeyanu. Comment ça se fait que le premier soir du Homer, quand on fait pourquoi est-ce qu'on ne dit pas également la bracha de She'echeyanu? Et on dit, bah, la keda, She'echeyanu, ça dépend de la joie. Tu ne dis pas She'echeyanu quand tu n'es pas joyeux. Or, au moment où la personne nous dit le Bala Akedal, au moment où la personne va commencer à décompter le Homer, eh bien, il va rappeler les versets qui lui font rappeler que ce n'est pas seulement un décompte, mais qu'il devrait falloir normalement également couper et amener au Beth Amikdash. Et donc, le fait de compter le Homer va nous rappeler le Korban à Homer, que nous ne pouvons pas faire, et donc on ne peut pas être véritablement joyeux. Donc, bah, on ne peut pas dire chez rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est tout à fait conscient que tant que la avoda pour nous n'est qu'un moyen d'arriver à un idéal qui serait de ne plus travailler. Imaginez-vous quelqu'un qui a une rente, je sais pas moi, qui a hérité d'une somme d'argent énorme. Ben voilà. Parce que, encore une fois, on ne parle pas de celui qui demande de la tzedaka pour pouvoir aller étudier la Torah. On ne parle pas de ça. Ça, c'est sûr que c'est l'obsédé. Mais disons que quelqu'un, il a un héritage de malade. Il n'a pas besoin d'argent. Il en a. Et il ne demande jamais la tzedaka, et lui, il fait la tzedaka, ce que tu veux. Peut-être qu'il peut, lui, aller étudier la Torah toute la journée. Peut-être qu'il n'est pas obligé d'aller travailler. Seulement, nous dit la Mishnah, dans Maseret Avot, « Yafé Torah im derech eretz, sheyegiat shneem » C'est-à-dire qu'il faut et travailler et étudier. Et ça ne dépend pas de si j'ai besoin de travailler ou pas. Il le faut, parce que c'est en touchant aux deux et à la Torah, bien sûr, et au boulot, que je suis protégé de la faute. Mais attendez, mais de quoi parlons-nous ? Binyan à Olam. La construction de ce monde est un idéal. Maintenant, comprenez-moi bien, quand on parle du Homer, on ne peut pas ne pas évoquer le personnage qui est devenu le plus, on va dire, célèbre dans cette période du Homer. Allô, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, bon, mais deux secondes, entre parenthèses, temps mort. Je veux juste rappeler une chose, c'est que de la même façon que les élèves de Rabbi Akiva, machin, nanana, qui sont morts, il y a eu le décompte du Homer avant Rabbi Akiva. Pendant à peu près 1500 ans, on a fait Sfirat HaOmer et il n'y avait pas encore eu les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Donc, toute la base de Sfirat HaOmer ne dépend pas de ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva. Que les choses soient bien claires. De la même façon, même si aujourd'hui, l'Akba HaOmer, c'est Rabbi Shimon, l'Akba HaOmer avant d'être Rabbi Shimon, c'est le 33e jour du HaOmer. Et vous allez voir que ça va avoir son importance. Mais on ne peut pas faire abstraction de Rabbi Shimon. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, on risque de tomber dans une erreur terrible. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimon. D'ailleurs, on sait que l'Aïloula de Rashbi, c'est l'Akba Omer. Si vous voulez savoir où se trouve l'histoire de Rabbi Shimon, vous n'avez qu'une seule chose à vous rappeler, c'est que c'est dans le traité de Shabbat, dans le Talmud. Vous allez me dire, oui, mais le traité de Shabbat, il est très long, il y a plein de pages. Non, c'est deux pages lag. Voilà, c'est lag Bahomer, c'est lag Beshabbat. C'est la page 33. Et bien là-bas, tu peux voir l'histoire de Rabbi Shimon. Et on connaît l'histoire. Ah, petit rappel, juste pour le kiff. On avait une réunion de trois Talmidei Chachamim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Et ils discutent tous les trois de comment est-ce que on doit se... Comment est-ce qu'on doit... quel est notre comment dire en français notre rapport, comment est-ce qu'on voit l'Empire romain? Bon, ça y est, on est après la guerre de Bar Kokhba, les Romains sont les patrons, il n'y a plus rien à dire. Quel est notre... Bon, c'est sûr qu'ils ne nous ont pas fait du bien, mais voilà, on ne peut pas dire. Hein, les Romains, ils ont construit des thermes, ils ont construit des ponts, ils ont construit... des chouks. Donc, ils ont fait des choses bien. On ne peut pas dire. Il se tait. Et Rabbi Shimon, il vient avec un Miché Bérard pour les Romains. Et il dit, ah bon, ils ont construit des thermes. C'est juste parce qu'ils allaient balader à poil. Ils ont construit des routes. Mais oui, c'est pour y mettre des impôts. Ils ont construit des chouks. C'est pour y mettre des prostituées. Bon, compris que Rabbi Shimon, il n'est pas fan des Romains. Bon, en même temps, c'est eux élèves de Rabbi Akiva, donc en même temps, on comprend. Mais bon, il y avait une quatrième personne qui était là-bas. Un mec qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Et ce Yehuda Ben Gerim, il a tout enregistré sur son portable et il est parti balancer l'enregistrement chez les Romains. Et à ce moment-là, les Romains, ils ont dit, c'est pas compliqué. Rabbi Yehuda, il a bien parlé sur nous. On va le mettre roche à Sanhédrin. On va en faire le chef des rabbins. On voit qu'il est de notre côté plus ou moins. Ça va être lui le contact qu'on a avec les juifs. Rabbi aussi, comme il n'a rien dit, on ne sait pas ce qu'il pense. Donc comme on ne sait pas ce qu'il pense, on va le garder au frais. Et on va l'amener à Tsipori. Tsipori, c'était la ville où il y avait la grande garnison et la grande prison romaine. Donc voilà, on va le garder au chaud. Au frais, au chaud, Josie. Et Rabbi Shimon, eh bien, on fait imprimer des affiches dans tout le pays avec la photo de Rabbi Shimon et marqué en dessous « Wanted, mort ou vif, 10 000 pièces d'or. » Vous connaissez l'histoire, Rabbi Shimon part avec son fils, Rabbi Lazar, et s'enferme au Beit HaMidrash, et sa femme vient lui donner à manger, à boire de temps en temps, et eux, ils sont cachés dans le Beit HaMidrash. Mais lorsque les affiches ont fait part, et ce n'est plus seulement 10 000 pièces d'or, mais c'est 100 000 pièces d'or pour la tête de Rabbi Shimon. À ce moment-là, Rabbi Shimon, il dit, on n'est plus en sécurité dans le Beit HaMidrash parce que ma femme bah peut-être qu'elle va parler. Pas volontairement, bien sûr. Mais bon, peut-être qu'elle va aller chez le coiffeur et qu'elle va discuter avec ses copines et qu'elle va balancer un truc. Et non. Donc, on part à un endroit où même elle ne saura pas. C'est aussi pour la protéger. Comme ça, si les Romains viennent la chercher, elle pourra vraiment dire qu'elle ne sait pas où on est. Et donc, ils partent dans la grotte à Pkin. Et on pourrait aller visiter un jour la grotte de Pkin. C'est un endroit assez impressionnant. Donc, quand on reprendra les Zrat Hashem, les Tioulim, eh bien, on pourra aller à Pkin, voir la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. En tout cas, il va dans la grotte avec son fils. Et là, vous connaissez l'histoire. Pendant 12 ans, ils restent dans la grotte. Ils se nourrissent de caroube et d'eau. Et ils étudient avec Eliyahu HaNavi. Et là, la folie. Pendant 12 ans, au bout de 12 ans, une voix sort du ciel et dit, c'est bon, ceux qui te voulaient du mal sont morts, tu peux y aller. Ça y est, le décret de César est tombé, tu peux sortir de ta grotte, c'est bon. Et là, il sort. Et il voit un homme en train de travailler la terre. Et il dit cette phrase terrible. Comment ? Vous laissez de côté l'étude de la Torah pour vous occuper d'un travail temporel ? Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai devient Superman. Il a des lasers qui lui sortent des yeux et il brûle tout ce qu'il voit sur son passage. D'après cela, on pourrait dire que Rabbi Shimon pense que le travail, c'est pas bien. Que le travail, c'est si tu travailles, c'est que tu vas pas étudier la Torah. Et donc, il faudrait que tu aies étudié la Torah. Et donc, on pourrait faire de Rabbi Shimon un bon Haredi classique. Est-ce le cas ? Eh bien, la réponse est évidemment non. Non, Vadaï Shelo va expliquer cela, le Khatam Sofer. Dans ses Chidushim sur le Talmud, dans Maseret Souka, page 36, mais le Khatam Sofer explique la chose suivante. Il dit, Rabbi Shimon n'a parlé contre le travail que dans un cas, c'est Bematsav shel Galout. En Galout, où lorsqu'on construit, eh bien en fait ça ne nous profite pas, ça profite aux Rechaim, aux Romains en l'occurrence. Mais évidemment que lorsque nous sommes sur notre terre et indépendants, Rabbi Shimon est conscient, nous dit le Khatam Sofer, qu'il y a une valeur intrinsèque au travail, qu'il y a une kedusha dans le chol. Et c'est à cela que Rabbi Shimon va tendre dans la deuxième fois où il retourne dans la grotte. Parce que la suite de l'histoire, vous la connaissez. La voix sort du ciel et lui dit, t'es sorti de la grotte pour détruire mon monde, allez, retourne dans la grotte. Pendant 12 mois. Comme le jugement des Rechaim au Gehinom qui dure 12 mois. Et quand il ressort et qu'il voit ce vieillard courant avec deux morceaux, deux branches de myrte, de Hadassim dans les mains, il dit, Lama, pourquoi t'as Lama Taratz? Parce que c'est Shabbat, faut se dépêcher. Il dit, pourquoi t'as pris des Hadassim? Votre Shabbat. Et pourquoi deux? Echad keneged Shamor, Echad keneged Zachor. Seulement pour que le mec, il ait des Hadassim, il faudrait qu'il les fasse pousser. Et donc, à ce moment-là, Rabbi Shimon comprend, Kama chavivim alecha mitzvot. Quand Chavim à l'Israël, c'est comme mitzvot Hashem. Et oui, les Bnei Israël adorent les mitzvot, adorent la Torah. Ils ont étudié la Torah, et ils ont tellement étudié la Torah que maintenant ils ont compris qu'ils devaient mettre ça en pratique. Ba'olam azeh. C'est de cela qu'on parle. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. Sfirat HaOmer, c'est montrer qu'il y a une Kedusha, Ba'olam azeh, dans ce que je suis en train de construire, Ba'olam azeh. Pour pouvoir arriver à 50 jours, qu'est-ce qui va se passer le 50e jour? On ne va pas recevoir la Torah, vous le savez bien, à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah, à Shavuot, on a reçu le dévoilement de Dieu. Il y a fait méode. On a reçu le dévoilement de Dieu, il y a fait méode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'en bataille, à Shavuot, on est prêt. Parce qu'on a compté pendant 49 jours, on est prêt à avoir ce dialogue avec lui. On est prêt à lui dire, en fait, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, alors, Asher Bara Elohim la'asot, c'est bon, ça marche? Et on va être prêt à lui répondre, oui, ça marche. Les amis, de quoi on est en train de parler? Sfirat HaOmer, quelle est sa chashivut? Sa chachivut, c'est de prendre conscience que c'est maintenant à moi de faire évoluer le monde étape par étape pour l'amener à la Kedusha. Svirat HaOmer, c'est le moment où je prends conscience de la Kedusha qu'il y a dans chacune de mes actions au quotidien. Et c'est là aussi où je prends conscience que si je rate une étape, ben je ne peux pas construire la suivante. C'est pourquoi il y a une halakha très bizarre dans Svirat HaOmer, c'est que si tu as raté un jour, tu ne peux plus continuer à compter avec la bracha. C'est-à-dire que tu as raté ta Svira. Mais pourquoi ? C'est-à-dire, j'ai raté le 23e jour. Nous, Makara. Je reprends le 24, ma c'est pour. Ma putain. Parce que si tu penses que tu peux sauter du 22 au 24, que le 23 pour toi n'est pas important, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu ne penses pas que chaque élévation amène son lot de compréhension. Vous me demandez tout à l'heure, mais à quoi ça sert maintenant sur la terre qu'on n'a pas le korban ? Nachon, on n'a pas le korban. Faisait Nachon. Mais pour l'instant, Sfirat HaOmer me fait prendre conscience de tous les pas que j'ai à accomplir pour pouvoir revenir au Corban. Vous imaginez, si cette Sfira-là, elle est tronquée, ça veut dire que je suis prêt à admettre qu'il y a des éléments qui, en fait, sont inutiles dans le monde que Dieu a créé. Machal le Mahad Avar Domé. C'est quoi l'exemple ? Ben, l'exemple type, c'est une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte. Dites donc que le 7e mois, elle en a marre. Elle dit, tu sais quoi, ça me saoule 9 mois de grossesse. Non, franchement, ça me saoule. Allez, viens, on saute le 8e mois. Allez, on passe du 7e au 9e direct. Allez, ça m'a saoulé. Mais jamais elle fera ça. Alors peut-être que ça la saoule, effectivement, mais elle ne sera prête à annuler aucun jour de sa grossesse parce qu'elle sait qu'un jour en moins, c'est un développement en moins du bébé. T'imagines une mère qui dit « Ok, moi je suis prêt à annuler le 7e mois de la grossesse. Bon, c'est pas grave, il aura un bras en moins, mais c'est pas grave, hein, parce que moi ça m'a saoulé. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La notion de chaque jour et chaque semaine nous fait prendre conscience que dans chaque jour et chaque semaine, eh bien, il y a un autre élément à dévoiler pour arriver à la relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la tradition d'Israël, la tradition juive, a mis en place le fait que, Bechag HaShavuot, une fois qu'on a terminé la Sfira, on vient dire à Kadosh Baruch Hu à quel point on a compris ce qu'elle nous a apporté. Et c'est pour ça qu'on va lire le livre de Ruth. Sefer Ruth Batanach. Alors, il y a plein de raisons qui lient Shavuot à Ruth. Ah, on va pas passer dessus là maintenant. On pourrait faire tout un cours sur les liens entre Sefer Ruth et Chag HaShavuot. Mais il y a une autre raison qui ne la relie pas, qui ne relie pas Ruth à Shavuot, mais qui relie Ruth à la Sfira. Le livre de Ruth se termine dans les derniers versets. Alors que ça y est, Boaz a épousé Ruth, et bien par un verset, au chapitre 4, ce sera au verset 13, un verset avec un mot unique dans tout le Tanakh. Unique. D'habitude, dans le Tanakh, quand on nous parle d'un homme qui a épousé une femme, qui a eu une relation avec elle, et le but du jeu, c'est d'avoir un bébé, et bien on nous dit, va-t'ar, va-t'aled. Elle a conçu, elle a enfanté. Mais chez Ruth, chez Ruth, il y a marqué comme ça. Vaïkar Boaz et Ruth. Boaz a pris Ruth. Vatehilo Leisha est devenue sa femme. Vayavo Elea. Ils ont une relation ensemble. Et on ne nous dit pas Vatel et Ben. On nous le dira. Mais avant Vatel et Ben, il y a quatre mots uniques. Vaïten Hachem La. Et Dieu lui a donné à Ruth. Hérayon, une grossesse. Toutes les autres femmes du Tanakh, elles étaient enceintes, hein, t'en fais pas. Mais nulle part c'est marqué. Ruth, Imash el Malchut, elle comprend mieux que quiconque l'importance du cheminement. Nous, à la fin de Sfirat HaOmer, on lit Megillat Ruth pour arriver à Vaïten Hashem Laherayon. Pour dire que de la même façon qu'une femme, elle n'est pas prête à laisser tomber une partie du développement de l'embryon pendant la grossesse, eh bien, on comprend que notre relation à Dieu ne peut être efficace que lorsqu'il y a ce décompte en entier. C'est-à-dire qu'on comprend que chaque chose dans ma construction de ce monde est importante pour avoir ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Sfirat HaOmer ou Ktsirat HaOmer, ben c'est très simple. La Ktsira, même Beshabbat, nous a fait prendre conscience que Kol HaChaim Po, c'est Kadosh. Sfirat HaOmer nous fait prendre conscience que maintenant que j'ai compris que tout était Kadosh, c'est à moi, ben, tout simplement, de mettre cette Kedusha-là dans chaque évolution. Et je l'ai dit, et je termine par là, je l'ai dit hier dans le cours que j'ai donné sur Herzl, je ne sais pas ceux qui l'ont suivi ou pas, mais aujourd'hui, on comprend de manière extrêmement évidente en quoi chaque élément de Sfirat HaOmer s'est révélé dans l'histoire comme étant un marqueur pour l'évolution de notre rapport à Dieu. Vous savez, dans les Sidourim, quand on parle de Sfirat HaOmer, eh bien aujourd'hui, Torah ta Kabbalah est rentrée à l'intérieur des Sidourim, et donc aujourd'hui, derrière chaque journée de la Sfira, eh bien, on nous dit également que ça correspond à une Sfira. Vous savez, dans la Kabbalah, il y a 7 élévations particulières qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Chaque semaine correspond donc à une de ces différents degrés. Et dans chaque semaine, il y a 7 jours. Donc, comme ça, on peut mettre vraiment dans toutes les sauces. Pendant très longtemps, seuls les kabbalistes, les mekoubalim, savaient de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde comme de l'eau de roche. Que chaque semaine amène son lot d'explications. Et au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, les choses sont devenues claires. La première semaine a toujours été claire pour tout le monde, puisque c'est la semaine du Chesed. Et la première semaine du Homer, c'est Pessah. Pessah, Chesed Gamour. Dieu nous a sortis d'Égypte de Chesed. La deuxième semaine, c'est la semaine de la Gvoura. Aujourd'hui, on comprend, puisque c'est la semaine dans laquelle se trouve Yom HaShoah ve Gvoura. La troisième semaine, c'est Tiferet, l'éclat, la grandeur. Ça, maintenant, on comprend. Parce que la troisième semaine, la Tiferet du peuple juif est revenue, Yom HaAtzmaout, dans la semaine de la Tiferet. La quatrième semaine, c'est Netzach. Ah, Netzach. Ben, Netzach, on a très bien compris hier que c'était Yom Herzl. Netzach Sheba Netzach, c'est l'anniversaire de naissance de celui qui est devenu le Mashiach Ben Yosef. À savoir Binyamin Zev Herzl, Netzach Sheba Netzach. Ensuite, nous avons la Shavua de Hod, parce que Mashiach Ben Yosef, ça ne suffit pas. La préparation concrète d'un pays, il lui faut une Neshama, il lui faut une Pnimiyut. Et donc le Hod, c'est à Pnimiyut. Celui qui nous a dévoilé les secrets de l'intériorité n'est autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a sa Iloula dans la semaine de Hod, particulièrement Hod Sheba Hod. Dans la sixième semaine, parce que tout ça c'est bien gentil d'avoir le cli et d'avoir également l'intériorité, mais si on ne le met pas en pratique comme il faut, alors tout ça va tomber dans l'oubli. Pour le mettre en pratique comme il faut savoir bien se comporter. Il faut savoir donc être tzaddik. D'après le judaïsme, tzaddik, c'est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Qui nous a appris à être tzaddik? Eh bien, nous avons reçu un livre il y a 300 ans qui nous a appris de A à Z comment on devient tzaddik. S'appelle Messilat Yesharim. Et donc, il n'y aura pas du tout de surprise que la sixième semaine, Bayesod chez Bayesod, ce soit l'Eiloula du Ramchal. Et enfin, dans la dernière semaine, Malchut, eh bien, sans surprise, le premier jour de cette dernière semaine, Bechesed Sheba Malchut, le 28 Iyar, nous sommes revenus dans la ville de la royauté, Beyom Yerushalayim. En d'autres termes, aujourd'hui, nous comprenons à quel point cette Sfirat HaOmer, chaque jour est important. Car elle nous permet de comprendre comment dans chaque situation, je vais pouvoir y dévoiler la Kedusha qui y est cachée. Je n'aurais pas pu le faire sans avoir pris conscience que je coupe le Homer dans son premier débat, même si c'est Shabbat. pour comprendre que il me faut mettre de la Kedusha Bechaye Achulim. Voilà l'enseignement de Sfirat HaOmer. Une fois que j'ai compris cela, alors je peux me présenter Bayom HaChamishim Besha'ar HaNun devant le dévoilement direct de Kadosh Baruch Hu qui me parle et qui me dit alors Kivo Shavat Mikol Melarto Ashabar Elohim La'asot, vous avez fini de parfaire le monde? Eh bien j'espère que cette année on pourra enfin se lever et regarder Akadosh Baruch Hu dans les yeux, je ne sais pas ce que ça veut dire, et lui dire oui, Zeu, Asinu et Haolam. À ce moment-là, on pourra tous passer ensemble dans le 8e jour, et ça sera encore une autre histoire. On en parlera quand on y sera. À bientôt, les amis.